présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
Chez lui. Nous ne voulons rien faire contre vous.
Didier, s'il est ici, il doit être très bien ici. Il n'a peut-être pas envie de vous suivre.
Madame, sa famille est très émue et croit qu'il est mort. Ses amis aussi. Ils sont tous chagrinés. Il doit revenir chez nous pour leur montrer qu'il est en vie. Vous ne devez pas le garder si vous l'avez. Pensez, madame, à la pauvre mère qui le pleure.
Jean lui dit, vous avez raison.
Elle ouvre la porte du placard. Apparaît Didier, à moitié nu, habillé de tulle. Didier est rouge de honte.
Il lui dit,
je ne savais pas qu'on le croyait que j'étais mort. Je suis venu ici, c'était pour ouvrir les portes à nos soldats. Et puis, les circonstances ont changé les choses. Je viens avec vous.
Jean lui dit, tu vas partir tu veux partir toi aussi?
Moi aussi je veux partir. J'en ai assez de tout ça,
le manoir lui dit.
Pour vous, c'est impossible. Vous devez rester encore un moment. On a besoin que la guerre dure peu. C'est pour le bien économique du pays et pour éliminer le plus d'Africains.
Alors, vous sacrifiez?
Non. Nous surveillerons et ferons en sorte à ce qu'il ne vous arrive rien. Pour le moment, vous êtes protégés ici.
Oui, mais par des caresses de mon amant et des insultes de ma famille.
Il lui dit, c'est peu de choses à côté de ce qu'endurent les soldats. Et en face le peuple qui manque de tout et est sous les regards des combattants. Bon, comment faisons-nous pour sortir de cette ville?
Elle lui dit,
que vous êtes entré, il faut attendre le matin. Vous dormirez ici et Didier avec moi.
C'est ce qu'ils font.
Didier et Jean passent leur dernière nuit en caresse. Et tant de douceur.
Au petit matin, se sont levés au lever du jour, se sont lavés, ont remis leurs vêtements. Didier dit adieu à Jean. Oui, Didier dit adieu à Jean.
Oh Dieu, nous reverrons en France.
Ils s'embrassent tendrement et quittent la chambre en faisant le moins de bruit possible. Le papier est désert.
Ils sortent de la maison. Ils vont vers le mur où il y a les cordes. Sautent le mur. La rue est déserte. Ils vont vers la place où il y a les chars, se mettent dessous et attendent. Des pas, des pieds, secousses. Et les chars se mettent en route.
de silence. Puis, petit à petit, des cris, des coups de feu, la bataille recommence. Ils attendent sous leur char. Le chef, avec un taki-waki, prévient des troupes qui sont sous les chars et qu'il faut les protéger. Ils entendent la bataille. La poussière. La fumée, les tueries. Ils sont entourés. Chef, il tente des appels. Entendu l'appel, le chef des armées françaises envoie un détachement pour les protéger. Lesquels restent près d'eux pour voir qu'ils puissent sortir des chars. Qu'est-ce qui se passe? Le chef sort précipitamment de son char et va rapidement prévenir les autres de sortir de leur char. On entoure Didier. Et vite, il se sauve au milieu avec le bataillon, au milieu de la tuerie. Ça va dans tous les sens. Mais pour protéger les hommes en noir et Didier. Après un très long périple difficile, parce qu'il fallait se faufiler au milieu de la bataille, ils sont arrivés au camp du bataillon. Est libre. Son chef va à eux. Il y a un hélicoptère. Les hommes en noir demandent à Didier. Vous voulez venir avec nous, rentrer en France? Didier lui dit, non, je préfère de continuer à me battre. Je suis un homme ici, je me sens homme. Je dirai à ma mère et à ceux qui m'aiment, surtout tout livre, que je les embrasse, pense à eux. Mais que ma vie est ici pour le moment. Oui, elle est ici. Ne pas se faire du souci. Je vais recommencer à me battre pour faire sortir de cette ville jaune. Le chef demande-leur lui dit, puisque vous désirez rester, oui, je suis un soldat. Bon, restez quelques jours, après vous partirez. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous avez fait sortir de cette ville. J'en suis très reconnaissant. et Didier retrouve son régiment. Il est fêté. Il raconte son histoire et son chef lui dit qu'il devrait en faire un livre pour distraire les soldats et montrer aux autorités ce que l'on est capable de faire. Didier reprend sa vie de soldat. Il continue à se battre comme un lion. Grâce à sa rapidité et à sa souplesse, il est redoutable. Il tombe sur les ennemis comme un fauve. Et le soir, il écrit ses souvenirs de guerre. Il écrit des...
Didier a vécu l'aventure de Cliff comme les héros homériques et arthuriens qui recommençaient les mêmes aventures chacun à leur tour. L'éternel retour, comme la guerre de Troie qui recommence au cours des siècles éternellement. Cette histoire est une de ces... un des recommencements de la guerre de Troie.
En France, on a appris avec soulagement qu'il était vivant. Sa méritrice ne veut plus, qui ne veut pas venir et se dit. Il aime plus la guerre que moi, il se dit. Ce Didier est un vrai soldat. Il aime la guerre. J'aurais jamais cru ça de lui. L'homme en noir est satisfait, mais dit qu'il faut le surveiller. Il ne lui arrive rien pour le moment. Après, nous verrons. Si pour la suite, les événements, il faut l'éliminer. Didier a fini son livre. Il est édité et a beaucoup de succès. Les amours cachées d'un soldat qui s'est enfermé dans la cité interdite. Ça fait mille et une nuits. Lorsque je le vois lire le livre, il est furieux. Et voit sa jambe, fait son enquête, personne ne rien, ne sait rien. Jean lui dit.
Tout ça, c'est un livre de propagande. Si quelqu'un était chez moi, tu saurais. Et puis, comment aurais-je pu cacher un homme chez moi?
Il écrit à la presse occidentale pour leur dire que c'est faux, que cette histoire c'est de Pierre Benoît. Que tout le monde sait que Didier, c'est un monsieur de la fierté, qui n'aime pas beaucoup les femmes. Tout le monde se moque de lui et ne le croit pas. Il est aux yeux de tous un cocu. Tout le monde est heureux de savoir Didier vivant. Même Beaulieu, parce qu'il se dit qu'il pourra se venger de la mort de sa fille et sa femme. Didier devient pour tout le monde un héros et un Don Juan. Jean le regrette et déteste cette ville, l'Afrique, la chaleur, la poussière, les rêves de Paris, de la mode, etc. La famille de son amant la déteste parce qu'elle est blanche et qu'elle est le motif de la guerre, une fille du diable, le mal. Jeune voix est envoûtée par cette belle femme fatale qui s'est envoûtée par les jeux du lit. Oh, elle est très experte. Elle le fait parce qu'elle a peur qu'on la maltraite. Et puis c'est sa seule défense. Les musulmans, noirs et blancs, détestent les blancs et les blancs, leur propre race. Ce sont des intellos qui lisent Genève. Il faut bien faire, détestent ce qu'ils sont. Les noirs les méprisent, mais se servent d'eux. Ne savent pas que ces blancs qui détestent les blancs sont des bourgeois. Caviar. Des familles très riches. Et pour faire bon chic, bon temps, bon genre, joue aux intellos et lisionnait. Didier, malgré... ses distractions, continue sa vie de soldat. Et se bat pour de bon.
Dégagez la plage, faites de la place pour les autres.
C'est tout ce qui reste entre nous et la tombe, capitaine.
Il tue.
De cette plage et dans leur ligne de mire. Vous restez ici.
Et vous bien. Êtes morts. Il est de plus en plus fougueux et fort. C'est merveilleusement bien manier le poignard. Ni la chaleur, ni le sable. Il ne les sente vraiment. Il est pris par ce qu'il fait.
Vous êtes qui, vous?
Du 104e bataillon sanitaire, capitaine. Pour effectuer les opérations sur le terrain.
Lâchez-moi cette connerie. Trouvez-vous vite des armes.
Il aime le jeu d'éviter la mort.
Allez.
Et t'as donné. Cela démontre qu'il est un bon combattant. Et un homme. Les Américains sont jaloux. On ne parle que des exploits du français. Et même lorsqu'il est dans la bagatelle. Est-ce un exploit d'un soldat que de devenir l'amant d'une pute française? On rit de leurs accusations et l'on dit qu'ils sont jaloux. Ils rêvent des toits que m'a fait cul et Didier. Mais la ville est assiégée par la France et non par eux. Ils disent que la France a pris la meilleure part de la bataille. Pendant ce temps, Cliff a repris son travail et travaille beaucoup. Il va visiter des usines Pontoise et Gap à Lyon, à Gerland, voir les lunes, violences et crépuscules, etc. Comme il est à Lyon, il va rendre visite à Monsieur de Janjou. Monsieur de Janjou est très heureux de le recevoir. Il le reçoit dans son salon en robe de chambre bordeaux.
C'est gentil de venir me voir, lui dit. C'est tout à fait normal
m'avait aidé et était très bon pour moi. Jean-Jules dit, on ne peut pas être autrement que bon avec une personne aussi bien que vous. Vous êtes un ange. Cliff, qui a l'habitude des excès de M. Jean-Jules, lui dit merci. M. Jean-Jules lui dit, vous restez, passez la journée avec moi. Je veux bien. Et M. Jean-Jules lui prend les mains et les lui caresse.
Cliff ne peut refuser. Ça ne se fait pas. C'est M. Jean-Jules et le sien que c'est un honneur de recevoir les hommages de M. Jean-Jules. C'est comme si l'on était sacralisé, comme le pape qui béatifie. Voilà. Mais que le lecteur ne s'inquiète pas. Et ne se fait pas pour rien. Nous connaissons M. de Jean-Jules et savons qu'il ne va pas plus loin que les caresses acceptables. Oui, M. de Jean-Jules ne va pas plus loin que les caresses acceptables. Et il passe la journée ensemble. Au restaurant. M. Jean-Jules lui parle des hautes-bords, des Pontois, des Dieppe. Il lui a présenté leur maison et ont visité les musées. Les musées de ces maisons et de ces gens illustres. Puis, après avoir dîné au restaurant, Cliff le laisse. Tant du restaurant lui dit, je vous remercie pour cette journée. Jean-Jules lui dit, c'est moi qui vous remercie d'avoir accepté de passer un moment avec moi. Votre présence a été un enchantement. Il lui dit, pour moi aussi, nous reverrons sûrement à Paris. Je l'espère. Si vous permettez, je vais vous embrasser. Ne craignez rien, c'est un baiser de paix, comme dit Pierre-Mathieu Roussillon. Et il l'embrasse, puis se quitte. Cliff se décide de marcher un peu avant d'aller à son hôtel, Hôtel Royal Place Bellecour. Comme il ne connaît pas bien Lyon, il s'est un peu perdu et se retrouve en bas des portes de la Croix-Rousse, rue du Sergent Blandan. Là, presque en face de la place Tatonnet, on voit un passage qui mène à la rue de la Martinière, qui est parallèle à la rue du Sergent Blandan. Une jeune fille et un jeune homme sont penchés sur une plaque de fer qui bouche un trou dans le sol comme un trou d'égout. Les jeunes gens sont habillés de noir. La fille en pantalon. La fille est de taille moyenne. Cheveux châtains, frisés. Elle porte des lunettes et semble très sympathique. Le garçon est délicieux, avec un visage angélique, un peu moqueur. Il a de beaux cheveux châtains qui ondulent et a fait une petite queue de cheval derrière. Cliff voit qu'ils sont en train de taper avec une espèce de barre de fer autour de la plaque pour la desceller. La desceller en enlevant la terre qui est autour. Cliff demande, qu'est-ce que vous faites ? Ils lèvent la tête tous les deux. Le garçon nous dit, qu'est-ce que tu regardes ? Cliff dit, non comme ça ? La fille demande, que fais là ? Cliff dit, je rentre chez moi, enfin, à l'hôtel, parce que je n'habite pas Lyon, je suis de Paris. Elle lui dit, ah, moi j'y habite. Il lui dit, ah. Elle lui fait, tu visites ? Il lui dit, pas vraiment. Elle lui fait, eh bien, tu vois, nous sommes de Lyon, enfin, pas vraiment, parce que moi j'habite loin, Oulin. Mais nous allons visiter Lyon, mais par les sous-sols. Qui surpris lui demande par les sous-sols et lui dit, oui, Lyon est un gruyère. Il y a des tas de cavernes et de passages. C'est très intéressant. On peut même faire des messes noires et entendre des groupes rock. Il lui dit, ça doit être très intéressant. La fille lui demande, ça t'intéresse? Oui. Le garçon lui dit, mais il ne pourra pas nous suivre. Elle lui dit, il semble souple. Puis elle dit à Cliff, tu sais, il faut nous suivre et c'est assez dangereux. Cliff lui dit, je veux bien essayer. Elle lui fait, bon, je m'appelle Sweetie et mon ami c'est Didier. Voir les lus, etc. Et même les aventures de Sweetie et Didier. Moi c'est Cliff. Elle lui dit, on va ouvrir le passage. La mairie a fermé les passages parce que c'est dangereux. Enfin, pour les ploucs, mais pas pour nous. Cliff se baisse pour les aider. Une fois que la dalle a été descellée, il y a un anneau sur la dalle. Didier y met une barre à mine pour la soulever et la retirer. Didier se met à aider de Cliff et ils sont arrivés à la soulever. Dépose la dalle à terre. Cliff se penche et voit un trou sombre. C'est noir. On ne voit pas le fond. Didier lui dit, attends. Il sort de son sac à dos parce qu'ils ont chacun un sac à dos. Sort de son sac à dos, donc, une corde longue. Avec un crochet d'alpiniste au bout. Il accroche sa corde au mur où il y a un anneau et jette le bout de la corde dans le trou. Il prend une lampe de poche, torche, Sweetie aussi. Et Didier dit, il va falloir maintenant c'est descendre. Descends le premier, toi le deuxième et Sweetie en dernier. Et c'est ce qu'ils font. Mettre leur lampe dans la bouche.
Griff n'est pas très rassuré. Descendent. Et au fur et à mesure qu'ils descendent, ils y voient de moins en moins. Ça sent de plus en plus la terre mouillée et humide. D'un grand bruit, c'est Didier qui est arrivé au fond et a sauté. Il y a Cliff. Mais bon, ne te fais pas de soucis. Tu as sauté à peu près un mètre. Et la terre est molle. Cliff, en fermant les yeux, et s'est retrouvé tout à côté de Didier qui l'aide à se relever. Puis, c'est au tour de la pauvre Sweetie. Ils voient qu'ils sont dans un couloir humide. Didier les guide. Suivent le couloir qui descend et devient de plus en plus humide. Il y a des toiles d'araignée. Ça sent très mauvais. Au bout du couloir, il y a un mur. Avec une ouverture assez grosse. Il la passe et se trouve dans une, disons, un grand couloir qui est en, le plafond est en demi-cercle, qui est en arche. Il y a d'énormes tuyaux au-dessus d'eux. Ça sent encore plus mauvais. Fait chaud. Didier leur dit, ce sont les tuyaux des égouts, venez. Ils continuent, voient des rats morts à terre. C'est très très humide. Il y a même des tuyaux qui sont percés. Ça sent extrêmement mauvais. Après un long périple, Didier les fait passer dans un passage qui ressemble à un tuyau de béton. Il faut marcher à quatre pattes. En descendant, ça devient de plus en plus étroit. Il fait très chaud. Le tuyau s'est transformé en une paroi dans le sol et aboutit devant une pièce, il y a un trou au mur. Didier leur dit, faut passer par là. Ils s'y engagent tous les trois. Au début, c'est comme un tuyau qui descend. Un vent terrible les aspire. Tombé et a perdu connaissance. se réveille et se trouve dans le noir. Demande, où êtes-vous ? Pas de réponse. Se dit qu'ils ont dû être assommés en tombant. Alors, en tournant, il cherche. En tournant en rond, il cherche et trouve quelque chose de visqueux. Ça sent mauvais et se rend compte que c'est un rat crevé. Il se trouve dans le noir, ne sachant où sont les autres. Que faire ? Il crie « Au secours ! Au secours ! Au secours !» Mais il n'entend que le son de sa voix. Et il est seul, marche à quatre pattes, panique. Je ne veux pas mourir ici. Il faut que je sorte d'ici. Oh oui, il faut que je sorte d'ici. En marchant, il tourne en rond, panique, à peur. Il est tombé dans un trou et perdu connaissance.
Encore une fois.
Il se réveille et voit qu'il est devant un hôtel, un immense hôtel, dans une espèce de pièce très très grande, tellement grande qu'il n'en voit pas les limites. L'hôtel est en pierre, avec au-dessus de l'hôtel, il y avait un très grand soleil stylisé, peut-être en or. Il brille comme le soleil, voir l'élu et les autres. Il se lève et voit qu'il est dans une très très grande pièce, tellement grande qu'il ne voit pas les limites, qu'il se sent perdu et dans le noir. Il s'approche de l'autel. Il est immense, très haut. À côté, il ressemble à un nain. Le seul est stylisé et peut-être très immense. Il éblouit. Il ne peut pas monter les marches de l'hôtel. Elles sont trop hautes. Il y en a 7. Il met la main sa première marche qui est plus haute que lui. Hein? Il ressent comme une décharge électrique. Hein? Perd connaissance. Confus comme un vent. Il se réveille et il est au pied d'une main de pierre, une immense main dont la paume est levée vers le haut, d'où sort une infime fumée. Cette main est sur un autel. Se lève. L'autel, c'est comme une espèce de socle. Et ça se trouve dans une pièce en cercle, tout vert, il n'y a pas de toit pour laisser passer le fluide. Il y a des colonnes immenses autour de la pièce. Et puis, aussi, sur les murs, des mosaïques et sur le sol. Sur les murs, elles semblent représenter des scènes. Sur le sol, ce sont des dessins en forme d'étoile. Dans le centre est le cercle de la main et le socle de la main. Autour, les colonnes sont de belles colonnes de marbre, genre antique. Il y a une ouverture au cercle qui doit être la sortie. Il y va. Je vois que dehors se trouve un ciel lumineux, d'une clarté douce. On ne sait pas d'où elle vient et de quoi elle est faite. Il y a sous le ciel une immense ville. Oui, une immense ville qui semble faire toute la surface de Lyon et même plus. C'est une ville antique de toute beauté. Cliff est ébloui et voit qu'il est sur une immense plateforme haute qui domine la ville. C'est magnifique. Il y a des escaliers qui mènent à la ville en bas. Il y a une place avec en étoile les rues qui se rejoignent. Des édifices, des immeubles, des palais plutôt, autour de la place. Au centre de la place, au pied des escaliers, une statue d'un jeune homme nu, debout, qui regarde le ciel et a la main droite levé vers le haut. Il est beau et magnifique. Cliff prend une rue. Il s'aperçoit que la ville est vide.
vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Pierre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.